Un retour déjà annoncé dans quelques semaines et un document de synthèse remis aux partenaires calédoniens. Manuel Valls a quitté le territoire hier soir. Le ministre des Outre-mer se dit confiant quant à l'avancée des discussions sur l'avenir institutionnel. Une grève au collège de Thiot. Demain, des professeurs et des parents d'élèves souhaitent savoir si l'établissement restera ouvert à la rentrée 2026. Plus d'un millier de visiteurs au vide-grenier de la place des Cocotiers ce dimanche. Si les événements du genre sont devenus très nombreux, le rendez-vous de la ville de Nouméa a su conquérir son public. À l'international, la sécurité européenne au cœur des discussions. Après le clash entre les chefs d'État ukrainiens et américains, et alors qu'un sommet s'ouvre aujourd'hui en Angleterre. À Paris, la fin du Salon de l'agriculture, une édition 2025 qui n'a pas attiré la foule. La plus grande ferme du monde fermera ses portes demain matin. Le sport du football, les Canaries nantais à l'épreuve du feu. Antoine Comboiré et ses joueurs défieront ce lundi l'Olympique de Marseille. En Calédonie, un pari réussi pour la section squash de l'Olympique de Nouméa après la tenue de l'Open International, compétition de prestige et grande fête pour la discipline durant une semaine. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, ce drame sur nos routes survenu ce samedi. On vous le disait ce midi, une femme a perdu la vie dans un accident de la circulation près de Wailou. Aux alentours de 16h30, hier, une voiture a fait une sortie de route pour une raison encore inconnue. Alors qu'elle se dirigeait en direction de Poro par le col de Pentecôte, la passagère âgée de 31 ans est décédée sur place, tandis que trois autres personnes dont le conducteur ont été blessés. Un des passagers a été évacué en direction du Medipôle pour des blessures graves. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce drame porte à 7 le nombre de victimes sur nos routes depuis le début de l'année. Après une semaine sur le territoire, beaucoup de déplacements et de rencontres et de nombreuses heures de discussions et d'échanges avec les délégations politiques calédoniennes, Manuel Valls a quitté la Nouvelle-Calédonie hier soir. Quelques heures avant de prendre l'avion, il a dressé, face à la presse, un bilan de cette visite et il a rendu public un document de 11 pages qui synthétise les orientations présentées par le gouvernement pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Léana Colombo.
Le préambule rappelle la méthode choisie et souligne la nécessité de trouver un accord en affirmant qu'il faut bâtir un compromis politique. Il fait ensuite la synthèse des échanges qui ont eu lieu sur les trois thèmes retenus par le ministre des Outre-mer. Le lien avec la France et l'autodétermination, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes avec un point particulier sur le rôle des provinces. Le ministre des Outre-mer souligne aussi que l'accord politique doit s'accompagner nécessairement d'un projet de société. Manuel Valls était accompagné du conseiller auprès du Premier ministre Éric Thiers. Il doit revenir en Nouvelle-Calédonie aux alentours du 22 ou du 23 mars. Et sans fixer de date butoir, le ministre des Outre-mer souhaite avancer vers un accord.
L'intégralité de ce document de synthèse est d'ores et déjà disponible et consultable sur notre site internet www.rrb.nc. J'ajoute que nous reviendrons sur cette visite et sur ce document de synthèse demain en compagnie du député Nicolas Metzdorf. Il sera notre invité du matin à 7h30. Et à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Comme d'habitude, il n'a pas mâché ses mots au sujet de la visite et des déclarations précédentes de Manuel Valls. Une émission également disponible en podcast sur notre site internet www.rrb.nc. 8 jours de visite en Calédonie donc pour le ministre des Outre-mer et les différentes réactions des délégations que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions. Aujourd'hui, les avis de la population sont encore contrastés 10 mois après le début des violences de 2024, mais au moment où une reprise du dialogue semble avoir été amorcée pour les responsables politiques, écoutez ce florilège de réactions ce matin au centre-ville de Nouméa.
On verra ce que ça va donner quoi, pour le pays.
Espérons qu'il y aura la paix.
Il faut de l'espoir hein, pour vivre, donc j'espère que maintenant les choses vont aller un peu plus vite pour nous, pour relancer l'économie et puis pour sortir certaines personnes de situations compliquées.
Après, ils disent comme ils ont dit au Congrès, au gouvernement, ils essaient de chercher un raisonnement pour que le pays soit stable. Économique comme ensemble, quoi, le vivre ensemble.
Mais j'espère qu'il va y arriver, à ce que les gens s'entendent et soient assez intelligents pour, sans empiéter sur le domaine de l'autre, arriver à s'entendre, surtout pour faire repartir ce pays.
On attend, on laisse faire.
On va attendre de voir les accords, si vraiment c'est respecté, on verra.
On attendra ce que ça va donner. plus important, c'est que c'est travailler ensemble le plus important.
Voilà pour ces réactions de la population après le déplacement de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. Le Haut Commissariat a publié une série d'arrêtés sur les mesures de police administrative en cours depuis les émeutes de 2024. Les restrictions sur l'alcool, la vente de munitions et les rassemblements dans le Grand Nouméa sont prolongées jusqu'au 31 mars, Charlotte Coulson.
Dans le détail, rien ne change. Les mesures sont juste prolongées. Pour rappel, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est strictement interdite sur l'ensemble du territoire. La vente à emporter est quant à elle toujours limitée à 1 litre par jour et par personne pour les boissons fortes de plus de 22 degrés. Concernant l'acquisition de munitions, celles de catégorie C sont limitées à 50 par mois, quel que soit le nombre d'armes détenues. La vente est soumise à une vérification d'identité et de permis. Et enfin, les rassemblements de personnes, les manifestations et cortèges sont toujours interdits sur la voie publique du Grand Nouméa, soit Nouméa, Dimbéria, Païta et le Mont d'Or.
RRB 17h51.
À l'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite avec un anniversaire cette semaine, celui de Radio Rythme Bleu qui fête ses 40 ans. C'est le 3 mars 1985, pendant les événements, qu'a été présenté notre premier journal d'information. Depuis 40 ans, RRB participe à la vie et à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et elle accompagne les Calédoniens au travers de l'information, mais aussi de la musique, des jeux et des services. Pour vous remercier, vous, nos auditeurs, nous vous proposons une semaine anniversaire avec des émissions spéciales, des témoignages, des jeux et une journée portes ouvertes le samedi 8 mars. À cette occasion, nous vous accueillerons dans nos locaux pour vous faire découvrir l'histoire d'RRB et le quotidien de ceux qui font votre radio. Ce sera samedi prochain de 9h à 19h dans nos locaux de la rue Sébastopol. En attendant, et après une semaine marquée par la visite du ministre des Outre-mer sur le territoire, plusieurs rendez-vous sont à noter dans l'actualité institutionnelle, Léana Colombo.
Mardi, le président du gouvernement, Alcide Ponga, pilotera la deuxième session du séminaire financier destiné à améliorer le futur débat d'orientation budgétaire. Mardi, le conseil municipal de Nouméa doit se réunir et jeudi, ce sera au tour du conseil municipal de Dimbéa. Par ailleurs, jeudi, les sujets liés à l'intelligence artificielle seront abordé à la station N en présence de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du numérique, sur le thème de la transformation des administrations publiques. Notez par ailleurs que jeudi soir se tiendra une cérémonie en l'honneur de la nouvelle consul générale de Nouvelle-Zélande sur le territoire, Marie Thurston.
Plusieurs rendez-vous relatifs à l'économie vont également ponctuer la semaine qui vient.
En point d'orgue, la semaine de l'entrepreneuriat qui s'ouvrira demain à l'Université de la Nouvelle-Calédonie avec plusieurs temps forts sur le campus, mais aussi jeudi soir au 1881 à Nouville, où se déroulera l'événement Nos Pépites ont du talent pour mettre à l'honneur les étudiants entrepreneurs. L'UNC organisera également à cette occasion mercredi le salon des masters et de l'emploi. Mardi se tiendra la CPS Le Village Pacific Tech et jeudi après-midi au Haut Commissariat ce sera le lancement de France 2030, le plan d'investissement dédié au financement des projets innovants.
Cette semaine sera aussi marquée au chapitre judiciaire par l'ouverture de la deuxième session d'assises de l'année. La première affaire de sang concernera un meurtre par arme à feu commis à Saint-Louis, au Mont-d'Or, en 2022. Un homme de 38 ans avait tué son voisin qui se plaignait de nuisances sonores. Le procès est prévu pour se dérouler sur deux jours, jeudi et vendredi. Au chapitre religieux, mercredi, ce sera le mercredi des cendres qui marque le premier jour du carême. La veille, ce sera donc le mardi gras, avant cette période de 40 jours qui doit nous conduire jusqu'à la fête de Pâques qui sera célébrée cette année le 20 avril. Une actualité riche également sur le plan culturel, Léana Colombo.
Et on citera notamment mercredi le lancement de l'édition 2025 de l'opération Livre mon ami. À noter aussi le lancement mercredi de la saison 3 du programme Click and Move de la province Sud. Et samedi, ce sera également la rentrée des associations culturelles et sportives sur la commune du Mont d'Or, au complexe sportif et culturel Victorin Boéwa à Boulary.
Le rendez-vous du week-end de prochain, le samedi 8 mars, ce sera la journée internationale du droit des femmes.
Et plusieurs actions se dérouleront à cette occasion, à l'initiative des associations ou des collectivités. Par ailleurs, à la Maison des Artisans, le 18e Salon de la Femme, organisé par Pacific Fair, se tiendra du 7 au 9 mars. Ce sera également les 10 ans de l'association FEE, Femmes Entraide Économique et Solidaire à Wailou, à Doneva.
Pas de cours au collège de Thiot demain, lundi. Le personnel enseignant et encadrant de l'établissement se met en grève pour protester contre la fermeture probable de l'établissement en 2026. Charlotte Coulson.
Les collégiens sont dans l'incertitude. Impossible pour eux de savoir si leur établissement restera ouvert l'année prochaine. Sur la commune, deux collèges, l'un privé, l'autre public. Tous les deux sont en sous-effectif. Le collège public La Colline accueille à peine 80 élèves et l'autre une soixantaine. Alors pour économiser, la province sud envisageait de mutualiser les effectifs et fermer l'un des deux établissements. Mais depuis une réunion tenue en août de l'année dernière, il n'y a toujours pas de réponse claire. Une situation qui exaspère le personnel de l'établissement. Ils sont près de 20 professeurs et encadrants à se rendre demain devant les grilles du collège pour protester. André Lanté est professeur d'histoire au collège La Colline.
Depuis à peu près 6 mois, on nous annonce la fermeture d'un des deux établissements de la vallée. Pendant très longtemps, on a pensé que ça serait l'établissement privé qui serait fermé dans la mesure où il est très très vétuste hein, et il reçoit moins d'élèves que nous. Et dernièrement, c'est-à-dire juste avant les vacances, notre directeur nous a annoncé que c'était l'établissement public qui allait fermer. Alors, établissement public fermé dans la vallée de Thiot, ça veut dire un choix qui est assez cornélien pour les parents. C'est soit ils mettent leur enfant dans le privé, dans un établissement qui est vraiment vétuste, et on sait très bien que la DEC est à bout de souffle financièrement, soit ils mettent leur enfant à la FOA, c'est-à-dire à pratiquement 1h30 de voiture. Donc on a fait remonter des demandes à notre hiérarchie, c'est-à-dire au rectorat, au ministre, pour avoir une réponse rapide sur ce qu'ils comptaient faire, parce que pour l'instant, officiellement, on n'a aucune information.
Et les parents ont été prévenus que les cours ne seront pas assurés demain matin et toute la journée. Les équipes administratives et pédagogiques du collège se retrouveront à 7h devant les grilles de l'établissement, rejointes par certains membres des associations de parents d'élèves.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, encore un beau succès pour le vide-grenier de la ville de Nouméa. Plus d'un millier de personnes a fait le déplacement ce matin pour ce rendez-vous devenu traditionnel sur la place des Cocotiers. Les visiteurs, autant que les exposants, étaient tous satisfaits.
On cherchait des petites affaires pour les neveux, les nièces et puis mon fils, oui. Il y a du monde, oui. C'est bon, on croise la famille, ça permet de se retrouver tout.
Oui, c'est l'occasion, on vient du Nord, de Wailou.
Et là, vous avez vu qu'il y avait vide-grenier, vous avez dit faut s'arrêter, faut profiter.
Oui, voilà, pour profiter, puis regarder ce qu'il y a.
Ça marche bien, les gens sont contents et la joie de vivre, quoi. Franchement, à chaque vide-grenier, de toute façon, il y a toujours autant de monde et... c'est ça qui est plaisant, quoi.
Je vends les affaires des enfants qui ont grandi. Il y a du monde et puis on arrive à se débarrasser de pas mal de choses. Les jouets, les livres, ça part bien.
C'est très bien pour la rentrée. On espère que tout le monde trouvera ce qu'il cherche, quoi.
Ouais, il y a du monde sort aujourd'hui, là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. Ça fait du bien de voir du monde sortir.
Bébé a trouvé ce qu'il faut sur ce vide-grenier, c'est ça?
C'est ça, oui. J'ai trouvé un costume Spider-Man. C'est super bien, il y a plein de stands. Et du coup, on trouve ce qu'on veut, quoi. Là, on voit de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et franchement, c'est une belle journée.
Les vide-greniers se multiplient désormais chaque week-end et attirent de nombreuses familles en période de crise. Pourtant, le rendez-vous de la place des Cocotiers a su trouver, au fil des années, les ingrédients pour conquérir le plus large public. Aurélio Oduro est chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa.
C'est vrai que le vide-grenier du centre-ville, c'est celui où il y a le plus de stands. Hein. Donc, il y a plus de chances de trouver des affaires, je pense. Et puis, c'est devenu une tradition. Les places se vendent très très vite. Hein. En 20 minutes d'ouverture, même une demi-heure d'ouverture, on n'a plus de place sur site. Je pense qu'il est inscrit et que les gens profitent de ce moment pour trouver des bonnes affaires, mais aussi une sortie en famille ou une sortie parce qu'on est dimanche et puis allez, je sors de la maison et là il fait beau. Donc ouais, juste une habitude. Dans les animations, on a la chance, on a nos amis artistes qui viennent jouer du coup au chapeau. C'est assez éclectique, différents artistes les dimanches. On n'a même pas besoin de les programmer, ce qui est génial parce que et c'est pareil, c'est des habitués aussi, donc on a appris à les connaître. Donc voilà, ambiance conviviale.
Et pas moins de 250 stands étaient encore une fois présents ce matin. Le prochain vide-grenier de Nouméa, ce sera le dimanche 6 avril, toujours sur la place des Cocotiers. Après Dimbéa et Païta hier, un forum des associations était organisé aujourd'hui à Boulou-Paris. Une vingtaine de clubs sportifs ou culturels ont rejoint les exposants du marché de Tomo pour offrir aux habitants une matinée pleine d'animation. Valentine Taufilier est chargée du sport et des loisirs dans la commune de Boulou-Paris.
Écoutez, il y a une super ambiance, il y a eu du monde, ça se passe super bien. Le fait d'avoir lié au marché de Tomo était une bonne idée. J'espère que ça va permettre de redynamiser, c'est le but, hein. Le but c'est de faire connaître et puis de redynamiser un peu l'existant, voire peut-être le nouveau. Bien sûr, tout le monde a beaucoup souffert de ce qui s'est passé, le tissu associatif en premier. Bah, tout s'est un peu mis en berne, on va dire. Là, en gros, on espère une reprise dynamique. Mais tout le monde est content, tout le monde est bien et content, ça se passe bien.
Et une cérémonie de remise de médailles a également eu lieu au Forum pour récompenser les sportifs boulous parisiens qui ont brillé lors de compétitions l'année dernière, notamment en taekwondo et en golf. Il est 18h passé d'une minute, on se retrouve après une page de publicité pour voir l'actualité nationale et dans le monde et ce sommet qui doit s'ouvrir ce soir à Londres sur la sécurité européenne.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal avec vous, Michael Juneski.
Le bras de fer autour des négociations dans le conflit russo-ukrainien domine l'actualité internationale. Après le clash historique entre Donald Trump, le président américain, et Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, Londres s'apprête à accueillir un grand sommet européen. Au menu, évidemment, les questions liées à la sécurité et à l'Ukraine. Une quinzaine de dirigeants, dont Emmanuel Macron, le président français, sont attendus. Volodymyr Zelensky s'est lui déjà entretenu avec le Premier ministre britannique et a obtenu des avancées, un accueil chaleureux qui tranche nettement avec le clash à la Maison-Blanche hier. Ce sommet londonien aujourd'hui pourrait être un moment clé. Le point avec Wilfried De Villers pour Europe 1.
Le moment est crucial pour le président ukrainien. Alors que le soutien américain à Kiev n'a jamais été aussi compromis, plusieurs pays européens ont déjà donné des signes positifs ces dernières heures. Le Royaume-Uni s'est ainsi engagé sur un prêt de 2,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Aujourd'hui, les discussions tourneront notamment sur la proposition d'un assouplissement des règles budgétaires de l'UE en vue de soutenir l'Ukraine et se posera aussi la question de l'envoi de troupes européennes pour garantir un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Reste que le soutien de l'Europe a ses limites, estime le spécialiste des questions internationales Patrick Martin-Jeunier.
L'Europe aujourd'hui n'est pas en situation d'aller bien plus loin pour un soutien militaire, car on sait très bien que l'Ukraine, sans les États-Unis, n'arrivera pas à recouvrer sa souveraineté. Donc je pense qu'au-delà des pétitions de principe, de quelques annonces fortes qui pourraient être faites, l'Europe n'a pas la possibilité militairement d'aller seule au soutien de l'Ukraine.
D'autant plus que l'Europe n'affiche pas un front totalement uni. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, appelle l'UE à lancer des négociations de paix avec Moscou. Et du côté de l'Italie, Giorgia Meloni plébiscite plutôt l'organisation d'un sommet entre les États-Unis et l'Europe.
Wilfried De Villers pour Europe 1. Notez que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, doit lui aussi faire le déplacement à Londres. Après l'échange houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky hier à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron a appelé au calme et au respect mutuel. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le chef de l'État plaide pour une paix durable et non une capitulation, tout en appelant à un sursaut européen pour bâtir une défense autonome et crédible. Cette nécessité d'agir, selon ses propres mots, sera déployée en 2 temps. À Londres donc ce soir, mais aussi jeudi prochain à Bruxelles lors de sommets européens consacrés cette fois-ci à l'Ukraine et aux questions de sécurité de nouveau. L'actualité internationale est également marquée par ces déclarations des terroristes du Hamas qui exigent le démarrage de la 2e phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Elle doit en principe avoir lieu dès aujourd'hui, mais Israël refuse dans l'immédiat. L'État hébreu propose à la place un autre plan avec une extension de la trêve pendant le Ramadan ce mois-ci et pendant la Pâque juive qui a lieu à la mi-avril. C'était une proposition des États-Unis. À l'actualité nationale, l'île de la Réunion a défiguré selon son préfet. Le cyclone dévastateur Garance a provoqué la mort de 4 personnes, Léana Colombo.
C'est dans l'est et le nord de l'île de l'océan Indien que les conditions cycloniques ont été les plus dévastatrices. L'alerte rouge ordonnant le confinement de la population a été levée à 17h hier pour nous. L'aéroport Roland-Garros à l'est de Saint-Denis a rouvert en fin de journée. Le bilan nous montre combien il faut être prudent alors que le danger n'est pas terminé, a souligné le préfet de l'île Patrice Latron. Un cyclone brutal et violent selon ses termes. Une femme a été emportée par les eaux à Saint-Denis. Un homme tué également dans la commune chef-lieu de la Réunion dans un incendie d'origine électrique. Une femme a elle été emportée par une coulée de boue à 3 bassins, commune de l'ouest de l'île. La préfecture a annoncé plus tard le décès d'une 4e personne, un homme coincé sous un arbre à Saint-Denis.
Pensez pour les famille des femmes et des hommes à qui le cyclone Garance a arraché la vie. La nation se tient à leur côté. C'est ce qu'a déclaré notamment Emmanuel Macron via le réseau X. Force de sécurité et de secours, élus services de l'État. La mobilisation est totale, a encore ajouté le président de la République. L'actualité nationale encore. Demain, la plus grande ferme du monde fermera ses portes après 2 semaines de salon Porte de Versailles à Paris. L'heure est au bilan. Reportage depuis le salon de l'agriculture de Geoffrey Branger pour Europe 1.
Difficile de se frayer un chemin dans les allées du salon ce week-end. Les visiteurs sont au rendez-vous, mais ça n'a pas toujours été le cas pendant cette édition, comme l'explique Élise, productrice de fromage dans l'Aveyron, présente au salon depuis plus de 10 ans.
Très calme le premier week-end. Après la semaine, ça a été. Et puis à partir de jeudi, on a senti une montée en puissance et avec une journée exponentielle aujourd'hui. C'est un peu la folie. Il n'y a pas de temps mort. Vivement demain soir. Ça commence à tirer un peu.
Une affluence colossale pour ce dernier week-end. Il n'en fallait pas plus pour faire plaisir à Christophe qui vend de la bière ici.
Il n'y a pas de pause là. C'est la grosse journée. Donc on n'a pas le temps de manger, pas le temps de boire. Mais ça se passe très très bien. Il y a très peu de personnes qui sont fatiguées, je dirais, d'avoir trop bu. Et donc globalement, ça se passe bien.
Un bilan très positif pour les exposants, mais également pour les visiteurs, enchantés à l'image de Henri qui vient au salon pour la première fois.
C'est hyper intéressant, l'ambiance est très sympa. Puis le fait de pouvoir acheter directement chez des producteurs locaux, pour un consommateur, c'est hyper satisfaisant de pouvoir faire vivre des gens qui produisent de la qualité et en plus dans des régions qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je me régale.
Cette année encore, peu de débordements au salon de l'agriculture. L'ambiance est à la fête et à la découverte des terroirs français.
Le reportage signé Geoffrey Branger pour Europe 1. Je rappelle que la Calédonie était représentée avec la Chambre d'agriculture et de la pêche et la province sud qui faisait découvrir nos produits dans l'espace dédié aux Outre-mer. Notez que l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos cette semaine sera le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. 18h passées de 8 minutes. Une dernière page de pub avant de voir tout le sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et tous les sports, Mickaël Juneski.
Le football, la suite de la 24e journée de Ligue 1. Et le FC Nantes se déplacera sur le terrain de Marseille demain. L'OM est actuellement deuxième du championnat de France. A l'inverse, les Nantais d'Antoine Comboiré sont encore en difficulté à la 14e place. Le défi est grand pour le coach de Nantes, Antoine Comboiré.
C'est vrai que c'est le défi qu'on se lance nous. On n'a pas encore réussi à faire 2 victoires consécutives et voilà, on a encore l'occasion là. C'est Marseille, on sait que c'est un match très difficile, très compliqué. Ouais, on s'attend à un match compliqué, très difficile, mais nous, ouais, on est ambitieux, voilà, on a envie, on se sent prêt, on se sent fort, mais sachant que ça va être voilà, très compliqué.
Marseille-Nantes à suivre à partir de 6h45 ce lundi pour nous. Auparavant, à 1h du matin, Lyon recevra Brest, puis à 3h15, Montpellier accueillera Rennes, Auxerre fera face à Strasbourg et Angers sera opposé à Toulouse. En rugby, une dernière affiche pour le compte de la 18e journée du top 14. Demain, Bayonne affrontera l'AS Clermont. Coup d'envoi de la rencontre à 7h05 pour nous. En MotoGP, la première course de l'année, c'est ce soir en Thaïlande. Hier, sur la Sprint Race, la victoire est revenue à Marc Marquez. Désormais sous les couleurs de Ducati, l'Espagnol a devancé son frère cadet, Alex, et l'Italien Pecco Bagnaia. Les Français Fabio Quartararo et Joan Zarco ont terminé respectivement 7e et 10e. Le Grand Prix de Thaïlande, première manche du championnat du monde, sera à suivre dès 19h ce soir, heure de Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
En Calédonie, la fin d'une grande semaine pour le squash. L'Open international de la salle Picou s'est conclu ce samedi soir sur une victoire d'Auguste Dussourd face à Baptiste Mazzotti. Les deux métropolitains de l'équipe de France faisaient partie des quatre invités professionnels venus à cette occasion pour assurer du grand spectacle au public venu en nombre. Laurent Vendée, président de la section squash de l'Olympique de Nouméa, organisateur du tournoi.
C'est un bel événement qui fédère la communauté squash. C'est un événement, comme tu le dis, qui a permis de voir ce que c'est que le haut niveau international. Avec des matchs tous passionnants, de l'engagement, il y avait une belle communauté, c'était super. C'est une belle semaine de sport, c'est une belle semaine de squash. Dès qu'on va développer une vitrine pour le sport, ça va attirer les jeunes et ils vont se sentir motivés. Donc c'est vrai que ces gros tournois-là, ça permet aux jeunes de se montrer, ça permet aux jeunes de les inciter à rentrer dans les tournois, et ces gros tournois-là, et effectivement de progresser, d'atteindre le haut de la pyramide.
C'est l'Olympique de Nouméa, voilà, les passionnés de squash qui ont dû mettre la main à la poche pour pouvoir faire en sorte que cette belle fête du squash ici puisse se tenir.
Ben c'est sûr que faire ce pari-là et prendre ce pari-là il y a un mois et demi, eh bien c'est faire le pari que dans quelques semaines, les collectivités vont nous suivre en matière de subventions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nos recettes, c'est 30% de fonds propres, 15 et 15 entre ligues et puis les rentrées d'argent. Et dans notre budget, il y a 20% de subventions des collectivités dont on n'est pas sûr d'avoir. Donc si on les a, on équilibrera nos comptes. Si on ne les a pas, ben on se mettra en risque financièrement. Et quand on a évoqué le sujet de la pérennisation de cet événement-là, il ne pourra de toute façon pas se faire dans un cadre économique non rétabli.
Laurent Vendée, organisateur de l'Open international de squash de l'Olympique de Nouméa, dans le cadre des 40 ans de la salle Picou. Je rappelle que le Calédonien Nicolas Masnet, notre meilleur représentant, s'est hissé jusqu'en petite finale où il s'est incliné face à la Malaisienne Siva Subramaniam, 7e joueuse mondiale. Encore quelques résultats à signaler. En triathlon, le trophée de la Ligue Multi-Activité s'est déroulé ce week-end. Mathieu Sanamacha remporte le classement général. En deuxième position, on retrouve Thomas Prono. Gauthier Lesgrétin est au pied du podium, termine sur la troisième marche du podium. 41 participants étaient en lice. En tennis de table, la Coupe Raymond Sens organisée par le Club du Mont d'Or aura notamment vu la victoire hier de Jérémy Dead, l'Olympique de Nouméa. Un trail hier soir également, la course à la Dorade à Dimbéa-sur-Mer avec 77 participants. C'est Simon Robin qui l'a emporté en force athlétique. La première compétition de l'année également ce week-end à Dimbéa, la Coupe Jean-Claude Coll avec la victoire en Open d'Axel Raymond avec pour lui un nouveau record personnel au développé couché. Et puis l'opération Tous à cheval s'est achevée aujourd'hui. Tout au long du week-end, plusieurs centres équestres ont ouvert leurs portes pour faire découvrir le monde de l'équitation au public et peut-être attirer de nouveaux cavaliers, Charlotte Coulson.
Que ce soit la Gourmette à Magenta, le Ranch Railway Station à Païta ou même le centre équestre de la Tamois, la liste des écuries participantes à cette opération est assez longue. À Dimbéa, c'est le Yala Ranch qui a proposé au public de venir visiter le club hier et aujourd'hui. Et ce matin, le beau temps était au rendez-vous. L'une des professeurs du centre, Peggy Daval, a accueilli de nombreux visiteurs.
Hier, on a eu un petit peu de monde, pas énormément, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde. On a le snack ouvert, ça va tourner un petit peu plus aujourd'hui. Alors, on a des baptêmes poneys. Donc on a les poneys à disposition où les parents peuvent prendre les poneys. Les enfants ont un petit contact avec, ils les brossent, ils s'en occupent, ils font un petit tour. Oui, on travaille toute l'année, on n'arrête pas les cours, mais généralement au mois de mars, voilà, il y a de nouvelles inscriptions. On a ouvert des créneaux pour les débutants, les enfants qui commencent, et puis même d'autres qui sont déjà guéris.
Et à dos de cheval ce matin, de jeunes enfants qui ont enfilé leurs bombes et ont passé les pieds dans les étriers pour la première fois. Ils ont ensuite pu profiter de la balade sous l'œil aguerri de leurs parents venus les accompagner.
Alors, on est juste venu pour déjà une journée porte ouverte, comme on a su un peu par hasard. Donc, du coup, moi, pour ma grande, Leïla, c'est une découverte. C'est la première fois qu'elle le fait.
Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Leïla ?
Je suis en train de faire du cheval. Ça se passe très, très bien, mais j'ai un peu peur. C'est la première fois que je monte sur un poney. Oui, j'aime bien.
Ben, moi, je suis venue, j'ai vu l'annonce sur Facebook. Et comme le cheval, c'était ma passion préférée depuis petite, j'ai préféré amener pour que les petits profitent. Ben, ils découvrent en même temps.
T'aimes bien les poneys ?
Oui, j'aime bien les poneys.
T'étais déjà montée sur un poney ?
Oui, j'ai déjà monté sur un poney.
Et t'aurais envie de recommencer ?
Oui, j'ai envie de recommencer. J'adore les poneys.
Et après l'opération Tous à cheval, c'est l'opération Tous à poney qui reviendra les 29 et 30 mars.
Il est 18h passé de 15 minutes, c'est l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pour cette nuit tout d'abord, les averses modérées concerneront encore le nord-est, la pointe nord et Belep. Sur le reste de la façade est et aux Loyautés, des averses faibles circuleront. Ailleurs, le temps sera sec, sous un ciel très nuageux. Sur le nord, le vent soufflera de secteur nord-est autour des 10 nœuds. Sur l'ouest, en cours de nuit, il deviendra progressivement faible, mais des accélérations seront encore possibles dans les vallées exposées. Ailleurs, il sera orienté au secteur est entre 5 et 10 nœuds. Localement sur le sud et le sud des Loyautés entre 10 et 15 nœuds et les températures minimales ce soir seront comprises entre 22 et 26 degrés. Demain matin sur le nord-est, la pointe nord et Belep, des averses modérées circuleront encore. Sur le reste de la façade est aux Loyautés, voire sur l'île des Pins aussi, le ciel restera très nuageux à couvert avec des rares averses faibles. Ailleurs, le ciel sera plus lumineux, le temps restera sec. Sur le nord, le vent de nord-nord-est se maintiendra autour des 10 nœuds. Sur l'ouest, il sera faible, bien abri à l'abri de la chaîne, avec toutefois quelques accélérations toujours dans les vallées exposées.